Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite à quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club numéro 405. Aujourd'hui, retour sur Hexagone MMA 43e édition qui avait lieu ce week-end à Paris avec en combat principal la victoire de Mathieu Leto Duclos après la blessure d'Iliane Boafia dès la première reprise. En co-main event, c'est la ceinture des moins de 93 kilos qui était en jeu et qui a été remportée par notre invité que je vais vous présenter dans un petit instant, le temps pour moi d'accueillir Baba, le pilier du RMC Fighter Club. Salut Baba.
Salut Charles, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va.
Ça va. Forme ?
Une fois n'est pas coutume, je suis pas le plus balèze sur le plateau.
Ouais, ça va. Ouais, bon, ça arrive quand même que tu sois. Ça arrive que tu sois le plus balèze quand même.
Là, je vais me faire discret là.
Ouais, nous, il y avait cet hexagone. Hein, nous, on bossait sur l'UFC ensemble, sur l'UFC 327. On n'était pas au Zénith, on était un peu dégoûtés.
C'est clair.
Mais on a tout regardé.
Il y avait de l'ambiance apparemment.
Et il y avait de l'ambiance. Et je pense que ça va nous être confirmé par notre invité donc en studio à nos côtés. Il est désormais champion mi-lourd chez Hexagone MMA grâce à une victoire à la décision contre l'Ayos Pape Bafodé Gassama. Salut, comment ça va?
Salut Charles, salut Baba. Ouais, bah ça va très bien, écoute, hein,
champion,
la forme, tout va bien, pas de bobo et très content.
Ouais, pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous pouvez voir la ceinture Hexagone MMA qui est à côté de Bafodé. Quatrième victoire pro, les trois premières c'était à la première reprise.
Ouais.
Finalement là t'as fait 5 rounds, donc vraiment une distance à laquelle t'étais pas habitué. Mais là t'es pas abîmé, en tout cas sur le visage etc, t'es nickel et tu t'es bien remis de ces 5 rounds, ces 25 minutes de combat.
Ouais, bah écoute, je sens encore le corps endolori un peu, mais sinon pas de bobo comme t'as dit, le visage tout va bien, quelques hématomes... un peu à la jambe, je crois, parce qu'il m'a mis un ou deux low kicks, mais sinon ça va.
Un ou deux low kicks sur 25 minutes, c'est bien, c'est honnête pour un combat de championnat. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club avec notre invité, Bafodé Gassama. Ouais, bah c'est pour ça, c'est parce qu'il est encore affûté du combat qu'il est plus costaud que toi, sinon on laisse quelques jours.
Ah
costaud,
ouais,
on peut compter là-dessus.
On est quasiment voisins, j'ai pas envie d'avoir une rencontre fortuite dans la rue.
Ouais, c'est vrai. Bon, on est tous les trois, on habite dans le 92. Hein.
Ouais.
On n'est pas très loin, on en a parlé juste avant, donc on y est bien. Et puis c'est une belle petite ville là-bas. Toi, t'es du côté de Colombes.
C'est ça, exactement.
T'en caches pas parce que t'es aussi employé municipal.
C'est ça.
Donc c'est une vie que t'as construite là-bas et qui, pour le coup, te convient en région parisienne.
Oui, bien sûr. Bah, je pense que les Hauts-de-Seine, c'est un très beau département, surtout quand on commence à développer une famille, tout ça. Et moi, ça fait un petit moment que je travaille à la ville. Ça va bientôt faire 10 ans, je suis électricien. Mmh. Et la ville commence à mettre des choses en place, surtout avec le nouveau maire, Joachim, monsieur Giancomoni, Joachim. Donc du coup, on va essayer de mettre des choses en place pour développer le MMA au sein de ma ville aussi.
On va en profiter parce que c'est quand même important aussi pour un combattant qui est en train de se construire. Tu as des sponsors qui te suivent.
Oui.
Déjà, ta marque de textile, c'est une grande marque japonaise. C'est Mizuno, on peut le dire.
T'es
suivi par Mizuno, t'as aussi fait des posts Instagram avec eux. Tu voulais aussi parler d'un sponsor qui est sur ta casquette.
Ouais, en fait, ça, c'est un sponsor de mon pays d'origine, la Guinée-Conakry. Donc, je salue le président, M. Mamadi Doumbouya, par le programme Simandou 2040, qui va me permettre de développer le MMA en Guinée et d'aider la jeunesse et un peu la culture guinéenne à s'élever.
Voilà, donc des sponsors qui suivent Bafodé, c'est important aussi pour l'expansion d'un combattant. Alors on va dire jeune combattant, même si t'es plus si jeune pour un combattant, mais ta carrière est assez jeune. Juste par rapport, on parlait des Hauts-de-Seine, etc. Toi t'es né au Mans.
C'est ça.
Et j'ai regardé, donc tes trois premiers combats pro chez Hexagone, t'as combattu à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, et là enfin, maintenant que t'es parisien, on va dire, puisque t'habites à Colombes en région parisienne, c'était un kiff pour toi de pouvoir combattre à Paris? Tu as peut-être pu ramener pas mal de ton entourage, un petit peu plus que sur les autres dates?
Ouais, non, franchement, c'était un souhait depuis un petit moment que j'émettais à Hexagone. Je suis très content que ça se soit fait à ce moment-là, en plus surtout pour la ceinture. Je pense que les gens, ils l'ont senti quand je suis rentré en scène au Zénith, qu'il y a eu, les gens se sont levés, ils étaient très contents que je combatte enfin à Paris. Et puis même le scénario du combat a fait qu'il y avait beaucoup d'engouement et je pense que c'était le combat de la soirée. Donc très content d'avoir pu combattre à Paris, oui.
Ouais, Baba, sûrement le combat de la soirée. D'ailleurs, même aux commentaires, donc nous on le disait, on n'y était pas, il y avait cette petite frustration, mais aux commentaires, Antoine Taylor, ils disent tout de suite, ils disent, ah là, sur la rentrée de Bafodé, il y a plus d'ambiance que ce qu'on a vu sur le début de la soirée.
Ouais.
Et après, le combat, il a été à la hauteur aussi, donc ça a été un petit peu le highlight de la soirée.
Ouais, clairement, c'était un très bon combat, très engagé, qui va à la décision, donc c'est ce qui va plaire au public. Les publics aiment bien les KO, certes, mais ils aiment bien quand il y a un combat de 5 reprises, avec beaucoup d'engagement. À titre personnel, je vais même te dire que moi, ça me surprenait que ce soit pas le main event de base, parce que certes, le combat du main event, il y avait une histoire, il y avait quelque chose, et c'est le tournoi. Mais là, on a quoi pour le titre en 5 reprises. Et, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais pour moi, ça veut dire que ça doit être le highlight de la soirée. Et vu le déroulé du main event, c'est le highlight de la soirée de loin. Il n'y a rien à dire là-dessus, donc c'est tant mieux. Et ça permet en plus de continuer à apporter de l'engouement au sport. Moi, je suis pas mal bafaudé. J'ai vu qu'il était au Colombe Mouetta. Je passe un grand bonjour d'ailleurs à Foued, à Hamza, toute la compagnie. J'ai vu que tu as fait un peu le tour de la ville. Donc, ça doit être cool quand même d'être un représentant sportif d'une ville et de dire voilà ce qu'on peut faire aux jeunes, etc. Quoi.
Ouais, franchement, on est des sportifs. Moi, aujourd'hui, je me considère sportif de haut niveau. Donc, du coup, je pense que c'est important de transmettre des bonnes valeurs et de transmettre aussi l'espoir. Comme moi aussi, j'ai commencé les MMA assez tard. Et moi, j'ai juste envie de transmettre l'image du fait qu'avec du travail, on peut arriver à nos fins. Et je suis très content d'avoir pu faire le tour de la ville. Et c'est pas fini, tu vois.
Ouais. c'est que le début. C'est que le début. Et puis là, on espère que les gens regardaient aussi RMC Sport et que du coup, même dans la rue à Colombes, les gens vont te reconnaître encore plus qu'ils ne le faisaient déjà avant. On va rentrer dans le détail du combat dans quelques instants. Mais justement, tu le disais, t'es assez jeune dans ce sport parce que t'as simplement commencé le MMA en 2022.
C'est
fou, c'était il y a 4 ans. Ça rappelle un peu, il y a un épisode qu'on va diffuser, parlons du PFL, pour Sam Bargué à Tangana, qui lui aussi a commencé très tard le MMA et qui a déjà un parcours qui est assez exemplaire, et une détermination aussi qui ressemble à la tienne. T'es champion de France amateur, vice-champion du monde IMAF, et donc t'es déjà champion d'une grande orga française après seulement 4 ans de pratique. Juste le mot du consultant, Baba, mais c'est assez... Franchement, c'est pas parce que c'est notre invité, etc. Mais
non.
Le parcours est assez fou parce que Hexagone, aujourd'hui en France, il y a Arès et Hexagone qui sont peut-être les deux plus grosses organisations. Mais c'est assez dingue d'être dans cette orga, d'être dans cette catégorie et de réussir à faire ce qu'il fait.
Bien sûr, c'est une dinguerie. 4 ans seulement de pratique, je te le dis. Moi, je viens d'une époque où il fallait pratiquer 4 ans pour que dans le club, on te laisse rentrer dans le ring, pour que tu puisses être confronté aux anciens en sparring. Là, je te parle de... Là, c'est juste... C'est une performance exceptionnelle de faire ça, d'avoir tout un passé sportif, on y reviendra, mais tu avais déjà un premier passé sportif. Donc, en plus, ça veut dire qu'il faut se réinventer et que tu découvres quelque chose de nouveau. Tu vois les gars qui ont de l'avance sur toi. Psychologiquement, c'est pas si simple. Donc, Faudé, c'est quelqu'un de pressé. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens, c'est parce qu'on avait fait un plateau ensemble, c'était l'UFC Macao.
Oui.
Et on parlait de ça, tu vois, il est en amateur et il me parle de ses ambitions, de faire ça vite. On est 2 ans plus tard, il a fait exactement ce qu'il m'avait dit ce jour-là. Donc voilà, c'est le destin, il y a les blessures, il y a tout ce qu'il faut jouer avec, mais en tout cas ça s'est très bien passé. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail derrière, sinon ça ne marche pas.
Il y a du travail, il y a forcément un peu de talent. C'est quoi le... Tu crois le... Sans forcément, mais tu peux te la raconter, c'est pas grave, mais c'est quoi le truc en plus, tu vois, que tu as eu par rapport aux autres?
Je pense, Charles, le truc que j'ai eu en plus, moi, c'est la vision. Depuis le début que j'ai commencé les MMA, j'ai toujours eu la vision de faire les choses pas à pas. Et souvent, dans les sports de combat, j'ai remarqué que des fois, il y a des gars, ils prennent des risques ou des combats qu'ils ne devraient pas prendre ou ils prennent pas le temps de se développer. Et moi, comme il l'a dit Baba, avant, je faisais du foot. Et dans le foot, je considère que je me suis brûlé les ailes et je me suis juré de ne pas répéter cette erreur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai bien pris mon temps en amateur, même si les gens pouvaient croire que j'étais vieux. Aujourd'hui, tout le temps que j'ai fait en amateur, je le rattrape dans l'expérience de cage. Avec tous mes combats, tous les adversaires que j'ai eu, ils n'ont pas eu autant d'adversité que moi et autant d'adversaires que moi. Donc du coup, c'est juste la vision qui m'a aidé, après le travail et voilà, mais c'est la vision surtout.
Cette vision aujourd'hui, pour toi, elle t'emmène jusqu'où?
Pour moi, Charles, la vision aujourd'hui, elle m'amène, écoute, tu sais, les MMA, c'est un peu un sport à certains. Donc moi, comme je l'ai souvent dit en interview, chaque combat, c'est une deadline pour moi. Donc j'essaye toujours de le prochain combat, c'est lui que je dois passer et ensuite je vois. Donc là, maintenant, je suis champion. Mon prochain combat, normalement, ça va être de défendre la ceinture. Si maintenant, il y a d'autres opportunités, je vais essayer de les saisir. J'aimerais toujours aller le plus haut possible. Si je dois aller à l'UFC ou au Contender Series, j'irai. Parce que question en fait, de temporalité, il n'y aura personne qui l'aura fait en France. Mais franchement, je ne me prends pas la tête. Juste le prochain combat, c'est ma deadline et j'essaierai de donner le meilleur possible.
Ce qui est assez fou, c'est que je pense que tu as toujours eu cette manière de penser, parce que de ce que j'ai entendu au lieu de toi, c'est à la base, le MMA, c'était aussi pour rester en forme.
C'est ça.
Juste un truc pour rester en forme. À quel moment tu t'es dit, tiens, de juste vouloir rester en forme, je vais pouvoir faire un petit truc parce que je sens qu'il y a quelque chose? C'est à quel moment que c'est venu, cette idée-là?
En fait, c'est venu de l'idée en fait, que je voulais pas... Tu vois, j'ai commencé à 28 ans, je voulais pas me réveiller après 30 ans et avoir des regrets. Donc je me suis dit, je vais essayer. si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et c'était plus le truc de pas avoir de regrets.
Mais c'est quoi ? C'est, y a un entraînement à jour, un sparring, il y a un truc où tu t'es dit, putain, là tu vois, ce mec qui est déjà...
Un déclic, tu vois.
Un déclic, ce mec, il est déjà un peu accompli, il a 10 ans de pratique, etc. Et j'arrive déjà à être meilleur que lui. Y a un sparring, ouais, par exemple, qui t'a fait ce déclic ?
Là, il y a une anecdote. Alors, le déclic, c'est à cause d'un gars, il s'appelle Abdoulaye Camara. Il est de Houille et il était du club de Hatch. C'est un Guinéen, donc je le passe bonjour. Et en fait, on s'était embrouillé à un restaurant et il m'avait dit qu'il faisait du MMA et je le sentais chaud parce qu'il faisait du MMA. Donc du coup, je dis, ah, vous faites les shows, bah je vais commencer les MMA. Donc c'est ça l'anecdote. La vraie raison, c'est celle-là.
C'était quoi l'embrouille à la base?
Bon, non, c'est juste j'étais à l'entrée parce que j'ai fait beaucoup de sécurité, ouais, aussi. Et moi, je voulais pas le laisser rentrer parce qu'il avait pas réservé. Mmh. Et du coup, c'est de là, on s'est revus à la salle de sport et il avait entendu que je voulais faire du MMA et lui, il en faisait déjà. Et je n'avais pas aimé sa façon de me parler. Donc, je dis, bah, écoute, je vais commencer les MMA. Comme ça, vous allez voir. Et un an après, je suis devenu champion de France.
C'est fou comme ça peut être sur des trucs.
Oh, ouais, c'est des détails. Hein.
Tu peux t'embrouiller avec quelqu'un et tout, mais Bafodé, il met la volonté dedans. Ouais,
donc, en vrai, je le remercie. Donc, Abdoulaye, merci. Et puis, en plus, il a suivi toute ma carrière. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu grâce à lui que j'en suis là aussi aujourd'hui.
Tu avais commencé un parcours assez sérieux en foot aussi. Tu avais essayé de te faire opérer dans des de formation, etc. Mm-hmm. Les échecs que tu as pu connaître en foot, en quoi est-ce qu'ils t'ont porté à ne pas reproduire ces mêmes échecs que tu avais connus dans ce sport que tu pratiques aujourd'hui en MMA ?
Alors, dans les échecs dans le foot, je suis parti tôt à l'étranger. J'ai joué à Tour FC, donc je jouais à un bon niveau. Je n'étais pas au centre de formation, mais j'étais juste dans l'équipe réserve. Je jouais bien, j'avais un bon gabarit, mais j'étais souvent stressé dans le foot, donc je pense que je n'étais pas fait pour ce sport. Mais en fait, à 18 ans, dès que j'ai mon diplôme d'électricien, je suis parti en Angleterre faire des tests. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû rester en France et me construire en senior. Et moi, je voulais partir tout de suite, être une star du foot. Et quand tu n'as pas fait de centre de formation, c'est très, très difficile de percer après dans le foot. Donc du coup, c'est vraiment le fait de me brûler les ailes dans le foot, de vouloir tout de suite, qui m'a fait comprendre que dans la vie, peu importe ce que tu commences, le savoir, c'est une arme. Et le savoir dans le MMA, pour moi, c'est l'expérience de cage, la répétition de la cage, parce qu'il n'y a que la vérité de la cage.
Je trouve ça assez fou dans les parcours de se dire, parce qu'en foot, il y a énormément d'élus. Alors, il y a beaucoup plus de potentiels clients de vouloir être joueur de foot, mais tu vois, sur un championnat français, par exemple, je ne sais pas si tu comptes qu'il y a 30 ou 35 pros par club, fois 20 en Ligue 1, fois 20 en Ligue 2, etc. Machin. Il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui peuvent devenir pros. Le parcours en MMA, tu t'es dit que ça allait être plus facile d'obtenir ce que tu voulais obtenir en MMA que ce que tu avais justement connu en foot ?
Non. Pas forcément. Pour moi, Charles, ce n'était pas forcément plus simple en MMA. C'est juste, je pense que j'étais fait pour ce sport. Je l'ai appris tardivement, mais je me rappelle en 2012-2013, quand je me préparais pour, par exemple, faire des essais dans des clubs, je faisais des prépas d'MMA, sans le savoir. Je faisais des prépas de fou.
Sur le foncier, tu veux dire, physique ?
Ouais, sur le physique. Mais en fait, c'était des prépas qui me préparaient pour le MMA. Quand j'ai commencé à faire des prépas d'MMA en 2022, je me suis rappelé qu'il y a 10 ans, c'est ce que je faisais. Donc en fait, j'étais mal dirigé et comme je pense que j'étais fait pour le MMA. Parce que pas les facilités que j'ai eues, mais comment j'ai fait vite, c'est pas possible si t'es pas fait pour ce sport-là.
Ça reste compliqué comme sport, hein, parce que quoi qu'il arrive, tu prends des coups, etc., c'est des trucs que tu connais moins dans d'autres sports, mais en plus de ça, t'es obligé de plaire à certains promoteurs, c'est pas comme certains sports assez linéaires, on a déjà parlé dans le Fighter Club, mais je prends souvent l'exemple du tennis, au tennis, si tu bats tout le monde, par exemple, t'es sûr que tu vas, même si t'es pas marketing, etc., tu vas... pouvoir, si tu bats tout le monde, t'es champion.
C'est sûr.
Tu vois, y a pas personne prend la décision de te placer là ou là. Tu perces les tableaux, etc. En MMA, en MMA sport de combat, c'est différent. Il faut quand même passer par des mecs qui vont dire, les frères Pourut par exemple, chez Hexagon MMA, qui vont dire, toi, je te prends et je te mets en main event, co-main event pour la ceinture. C'est un sport où il faut convaincre les gens.
Ah oui.
Faut convaincre. Il faut faire attention à son parcours. Et c'est là où je trouve que ce que Bafodé fait est fort, parce que quand on se rencontre la première fois il y a 2 ans, je me dis, c'est il peut le faire parce qu'il est dans des catégories élevées, certes, mais bon, commencer à cet âge-là et quand même dire « je vais faire mon circuit amateur, je ne vais pas brûler les étapes », ça demande beaucoup de force mentale parce que sinon, si tu vois que tu as le potentiel athlétique, si tu vois que ça se passe bien à l'entraînement, tu vas vouloir aller vite. Comme ce que tu as fait en foot, tu vas vouloir aller vite, tu vas dire « en fait, ces mecs-là, c'est des pros, je tourne à la salle avec, je vois que ça se passe bien, il n'y a pas de raison en fait ». Je vais essayer d'aller le plus vite possible et c'est là que tu vas te brûler les ailes, c'est là que tu vas pas affronter certains types d'adversaires et tout ce que Bafodé il a fait, on y reviendra tout à l'heure, ça le prépare à ce que Pape il a fait dans la cage et pouvoir t'adapter et pouvoir te dire ok, je vais faire 5 reprises avec ce mec-là parce que c'est une galère. Donc c'est difficile, pour revenir à ce que tu disais sur le foot. Le foot, c'est difficile, surtout quand tu viens de l'Île-de-France, tu le sais. Parce qu'en Île-de-France, c'est un bassin.
La concurrence.
Moi, je dis toujours que c'est le bassin le plus incroyable qui existe au monde pour le foot. Mais c'est une dinguerie parce que tu vas jouer à ici les Moulineaux. Ben, pour l'équipe des U13, il y a 11 joueurs sur le terrain alors que tu as 45 mecs qui peuvent jouer. Et tu en as 10 par poste, tu vois. Donc, c'est extrêmement concurrentiel. Donc, ceci étant dit, le combat, et je le dirai toujours, le combat, c'est la manière la plus difficile qui existe pour devenir riche. Donc, tu ne fais pas ça pour être riche, tu fais bien ça sûr. Parce que déjà, ça te plaît. Et surtout, et c'est ce que j'aime bien ce que Bafodé a dit quand il a terminé son propos, si tu n'es pas fait pour ce sport, tu n'es pas fait pour ce sport. Je le dis toujours, il y en a qui viennent à l'entraînement, qui commencent, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la répétition, ils n'aiment pas prendre des coups, ils n'aiment pas l'appréhension, ils n'aiment pas gérer l'appréhension, ils détestent gérer l'incertitude parce que le combat, c'est l'incertitude. Et. Les gens détestent ça, tu vois. Donc moi, je vois ceux qui sont prêts pour, qui reviennent, qui en redemandent, et ceux qui ont une galère, t'es obligé de leur dire « bah t'es peut-être pas fait pour ça, c'est pas grave ». Donc on peut parler de talent, on peut parler de travail, mais ça, c'est du savoir-faire que tu vas pouvoir acquérir. Mais il y a des savoir-être, si tu les as pas,
savoir-être,
t'es mort dans le film, en fait, et c'est mieux de retenter le foot en CFA, tu vois. Ça existe encore le CFA ? Pardon.
tu l'aimes cette incertitude justement qu'il y a dans ce sport?
Ouais, parce que pour moi, en fait, le MMA aujourd'hui, dans l'époque où on vit, je vois qu'il y a beaucoup d'engouement parce que ça ressemble beaucoup à l'époque dans laquelle où on vit. C'est une époque difficile et il y a tellement aussi d'incertitudes dans la société aujourd'hui. Et moi, ce que je dis toujours, le MMA, tu peux pas mentir. Si tu veux, tu mens sur ta prépa, tu mens sur la difficulté d'entraînement, bah dans la cage, tu vas pas mentir et tu vas te faire punir, tu vois.
Ouais.
Donc non, j'aime tout ce que le MMA transmet en valeurs, je l'aime et je pense que c'est des valeurs qui me correspondent.
Ça te correspond et en tout cas, c'est des valeurs que tu retranscris dans la cage combat après combat. Mm-hmm. On le disait, tu as commencé le MMA il y a 4 ans, tu as eu 20 combats amateurs, je crois, 4 combats pro désormais. Si vous l'aviez reçu, c'était notamment parce que tu avais pris une ceinture à l'EF.
C'est ça, exactement.
Et j'ai re-regardé la carte de l'EF 4. C'était le 14 octobre 2023.
Grosse carte.
Non, mais vous souvenez, elle était magnifique. Ouais, je les ai renotées parce que, tu sais, au début, je me suis dit, ouais, il y a Biroa, il y a Bafodé, mais en fait, après, il y a lui.
Ouais,
donc, il y avait quand même Mofsar Ibrahimov.
Oui.
Il y avait Mathis Lehagrin, il y avait Thomas Théo Meurice, et Paul Donat, et Samba Siema, et il y avait même Amaury Wakosabo.
Oui.
Et donc, Bafodé qui était là aussi, avec c'est Patrick Abiora qui était headline de la soirée.
C'est ça.
C'était finalement de faire tes armes autour de tous ces mecs-là aussi, avec tous ces noms-là qui depuis ont beaucoup grandi, énormément grandi.
Beaucoup de chapeau à Willy Sirop.
Ouais, faut le dire.
C'est visionnaire, scout, ce que tu veux.
Ouais. Franchement, tu vois, comme on a dit là, je passe le big up à Willy Sirop. L'AEF 4, c'était mon premier combat à la télé, premier combat même, merci à RMC.
Cher RMC Sport.
Exactement. Ouais. Je suis passé, je crois, en plus à 21h10. Donc tout le monde était branché.
Ouais,
c'était un samedi soir, donc c'était en mon plus, premier combat à la télé.
À mon avis, il y avait du Twitch aussi peut-être, donc il devait y avoir une partie gratuite.
Exactement.
Qui amenait vers.
Et ensuite, moi, j'étais le premier combat à la télé. Donc franchement, c'était magnifique. Et il y avait des gros noms. C'était la première grosse carte amateur en France. Nous trois, on était en équipe de France. Moi, Samba et Paul, on était tous en équipe de France. Et après, il y avait en headline Patrick Abirora, Duragrin, Wakosabo, tout ça. Mais c'était une belle carte. Il y avait tous les combats, c'était des combats disputés et tout. Donc non, franchement, des superbes souvenirs.
Là, ça, c'était il y a à peu près 3 ans. Tu fais cette même carte sur un truc aujourd'hui.
Ouais.
C'est un carton.
En pro, tu vois.
Déjà, sincèrement, tu pourrais plus le faire. Enfin,
Il faut une grosse orga.
Mais
tout le monde soit signé au PFL.
Bien sûr.
Il n'y a que le PFL qui pourrait faire un truc comme ça. Mais sinon c'est trop gros. Tu vois. Enfin, déjà, tu ne vas pas diluer autant de noms sur une même carte.
Non.
Même si tu es dans une orga, tu vas dire attends, lui, je le mets sur une autre carte. Ouais. Je fais plusieurs cartes parce que là, mettre tous ces noms sur une même carte.
Non, c'est une dinguerie. Moi, j'ai jamais fait de mystère, surtout à l'époque. Parce que moi, ça correspond à peu près à l'époque où je commence à faire les RMC Fighter Club avec Herbie. Et j'ai jamais fait de mystère sur le fait que je suivais pas le circuit amateur au départ. Donc moi c'est Sacha Alice qui me dit il y a une carte de fou à la EF, il y a tel nom et c'est le premier qui me parle de Bafodé, tu vois. Me dit ah tu verras et tout, il y a un mec qui est lourd alors qu'il combat depuis pas très longtemps. Et bon, tu commences à regarder forcément parce que quand Sacha il rentre dans ta tête avec un mec qui te matraque, et j'ai fini par regarder. C'est comme ça d'ailleurs après que tu viens en plateau et tout, tu finis par m'y intéresser. Donc ouais, c'est clair que quand tu vois le chemin parcouru par tous ces gars-là aujourd'hui, et que pour certains, bah, vous êtes à l'Hexagone, toi et Paul Dena, que d'autres sont au PFL et compagnie, bah, j'imagine que pour toi déjà, ça te donne une idée du chemin parcouru. Et pour certains qui ont signé dans une grosse orga mondiale, comme Patrick Abiroa par exemple, ça te donne une idée aussi
du chemin qui est
en termes de carrière.
Oui.
C'est ça, Patrick, ça reste un exemple aussi pour toi, le chemin de carrière qu'il a eu ?
Ouais, non, il faut dire la vérité. Patrick Abiroa, en termes d'amateur, c'est celui qui nous a plus montré le chemin. Tu vois, je vais te donner une anecdote. Lors de mes premiers championnats du monde avec l'équipe de France, quand on va en Albanie, nous, on était tous nouveaux dans l'organisation des IMAF. Donc, on va la peser le premier jour. Et tu vois, toute l'équipe, moi, Samba, Wally, Hugo, tout ça, on rentre. Et on le voit, lui, il sort. Nous, on arrive à l'heure qu'ils ont dit, à 6h, lui, il est déjà en train de sortir. On ne comprend pas. Il dit, mais les gars, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en fait, quand tu fais une pesée aux IMAF, il faut venir avant tout le monde pour partir avant tout le monde. Et juste ça, il nous a montré trop d'expérience. En plus, on l'a vu gagner. Donc non, franchement, Abiroa, ce qu'il a fait en amateur, c'est fort. Et tu vois, même moi, ça m'a inspiré à dire, il ne faut pas aller trop vite. Tu vois, il a fait beaucoup de combats amateurs et l'expérience qu'il a aujourd'hui, ça le sert pour tout ce qu'il fait. Donc, c'est très important.
C'est fort. Et encore une fois, référence à l'épisode qu'on diffusera avec Boris, qui lui aussi s'est énormément inspiré de Patrick, d'autant qu'ils sont partenaires d'entraînement, qu'ils s'entraînent ensemble à Bruxelles, etc. Mais voilà, gros big up à ce qu'il a fait aussi. Et gars plus jeune qui a montré la voie aussi de pas mal de mecs et qui donne de l'expérience à des gars qui ont moins d'expérience dans le domaine, mais qui sont un peu plus âgés. Donc bravo à Patrick aussi pour tout ce qu'il a fait. Rapidement, sur Hexagone MMA 43, on va évoquer ce qui s'est passé sur l'ensemble de la carte, en parlant notamment du combat principal, mais il y a eu la victoire d'Alex Jean-Guillaume sur Christopher Odena, celle de Souil Areski sur Max Vallo, et donc malheureusement cette blessure d'Iliane Bouafia contre Mathieu Letot-Duclos qui intervient très très tôt dans la première reprise. Toi, tu étais le combat juste avant, donc au main event, tu l'as vu ce fight ou tu étais à la douche?
Non, même pas, j'étais dans le vestiaire. Et au moment où je voulais regarder, on me dit combat fini, Bouafia s'est blessé, je dis oh. Et après je suis allé le voir, et il m'a dit il s'est claqué l'adducteur, donc j'ai pas vu le combat, mais après ce que j'ai vu c'est que je crois qu'il c'est sur un high kick, non? Il se blesse sur un high kick.
Ouais, c'est ça, il envoie un kick et c'est à l'adducteur que,
il envoie un high kick avec sa jambe gauche et c'est sur sa jambe d'appui, donc sa jambe droite. Ah. Tu vois que ça lâche et qu'il va tout de suite au sol. Apparemment, il y avait une blessure préexistante.
Oui.
En tout cas, c'est ce que nous dit, c'est ce que Younes aussi a dit sur ses réseaux. Donc ça a fait beaucoup parler de... Bon, déjà, Mathieu, il a gagné. Et lui, c'est pas... lui, il fait ce qu'il doit faire dans
la
cage.
Il est professionnel.
Il est professionnel. Contrairement à Yiri, il n'a pas eu de pitié. C'est dans une cage, tu ne dois
pas,
n'est-ce pas? Maintenant, comme je dis toujours, après, bah, c'est le combat. La plupart... je montais dans l'ascenseur avec Bafodé, il m'a dit qu'avant le combat, il avait quelques bobos. La plupart des combattants te diront que tu vas arriver dans le combat avec certaines blessures, plus ou moins graves. Maintenant, il y a des décisions à faire. Il y a des décisions à prendre. Ils ont pris la décision de faire le combat quand même. Ça a lâché. Bah moi j'ai pas épilogué là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Bien si sûr. La décision elle est prise,
bah ouais.
Il faut juste assumer, on l'assume derrière, il y a des conséquences et puis voilà. Par contre les conséquences malheureusement pour Iliane elles sont terribles.
Ouais c'est ça, mais alors il y a des questions à se poser peut-être, parce que c'est vrai que quand tu vois Joshua Van par exemple qui pull out son combat contre Taïra et qui combat sur le numéroté d'après, c'est-à-dire qu'il a un petit bobo qui va pouvoir se résorber en à peine un mois. Mais du coup, même si c'est pour une ceinture UFC, etc., il préfère pull out sur ce combat-là pour le reporter d'un mois. Voilà, bon, c'est des décisions à prendre. Et malheureusement, bon, Iliane devait penser qu'il pouvait tenir le combat. Je ne sais pas si toi, tu as eu des insides après, si tu as vu un peu les réactions de Mathieu, d'Iliane après le combat.
Non, bah après, j'ai vu Mathieu, je l'ai félicité. Et après, bah, comme il a dit en interview, il a dit c'est les gentils qui gagnent, tu vois. Je ne sais pas trop pourquoi il a dit ça. Mais après, non, après, comme Baba il a dit, tu sais, même toi tu l'as dit, les MMA c'est l'incertitude. Donc tu vas dans un combat, tu peux avoir des blessures, c'est à toi de juger si avec ces blessures tu vas être au maximum de tes capacités ou avec ces blessures tu vas être en mesure de battre ton adversaire. Donc après, en plus, s'il sait qu'il était blessé, je n'ai pas trop compris pourquoi il a envoyé un high kick, donc... Il y a plein de choses qui sont un peu dans l'incompréhension, mais le résultat final, c'est qu'il a perdu et que c'est que Mathieu a gagné. Et...
Ouais, enfin, je vois aussi qu'il y a beaucoup sur le high kick. C'est clair que ça interroge. Hein, tu te demandes pourquoi le high kick il a envoyé. Moi, en toute franchise, je pense à de l'automatisme. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je me dis que c'est quelque chose qui est complètement automatisé. Que même lui, en fait, inconsciemment, son cerveau lui dit ouverture, t'as déjà drillé ça dans ton entraînement. La jambe part et tu regrettes. Ouais. Combien de fois t'envoies un middle dans un coude ? Tu vois le coude. Hein. Tu dis attends, je vais envoyer. Et tu regrettes amèrement. Ta cheville vient s'écraser dans le coude. Bon, écoute, c'est comme ça. Ouais. C'est quoi ton rapport, toi, à la blessure et à certaines blessures avant d'entrer dans le combat, avant d'arriver dans le combat ? Est-ce que mentalement, ça joue beaucoup dans ton arrivée dans un combat ?
Alors là, par exemple, en pro, j'ai eu une blessure qui m'a posé un questionnement. C'était avant mon troisième combat à Toulouse. Ouais. Je m'étais fait une grosse entorse au poignet gauche. Donc, j'ai beaucoup hésité avant de combattre. Ma kiné m'a déconseillé, mais je suis quand même allé au combat. Et sur ce combat-là, j'avais une blessure au genou droit. J'avais mon cartilage qui était un peu parti. Mais c'est avec les séances de kiné, ça allait quand même. Mais sinon, je n'ai jamais eu de blessure qui m'ont dit où je dois arrêter. Mais si vraiment ça m'arrive, moi, je pense que suivant l'enjeu, c'est possible que je repousse, oui. Parce que les conséquences peuvent être très graves.
Comment t'analyses justement des combattants qui, après des fights, vont trouver des, entre guillemets, des excuses, mais mettent beaucoup en avant le fait qu'ils aient été un peu blessés, pas très bien dans leur prépa. Vu que toi, tu as justement cette philosophie de te dire « si je me sens pas très bien, je me mets en dehors du fight », c'est pour justement ne pas avoir à trouver d'excuses si jamais tu vas sur le combat. Donc comment tu vois ces fighters qui font ça ?
Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que tu manques de respect à l'autre, tu vois. L'autre, il s'est préparé, il t'a respecté. Donc, à toi aussi de dire... tu peux le dire après que tu t'étais blessé, mais en vrai, ça va servir à quoi ? Parce que le résultat, il ne va pas changer. Hein. Non, donc, en vrai, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est soit tu pull out, tu dis « je suis blessé, je ne peux pas », tu envoies le justificatif du médecin, ou soit tu dis rien, mais tu ne diras jamais rien parce que vu que tu as perdu, tu as un orgueil et tu veux que les gens y comprennent. Mais bon, après... En plus, surtout là, je pense qu'il n'avait même pas besoin de dire qu'il s'était blessé avant, parce qu'on voit dans le combat qu'il s'était blessé.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Comment tu regardes beaucoup l'UFC ou pas ?
Oui, ouais, moi, je regarde tout, moi.
Tu regardes tout, parce que avant d'aller en focus sur ton combat, mais juste sur ce combat principal, parce que ça mêle à la fois la blessure dont on vient de parler et à la fois ta catégorie chez moins de 93 kilos.
Ouais, ouais.
Comment tu as regardé en direct dans la nuit le Hulbert Prochaska ?
Ouais, Prochaska, c'est un combattant que j'aime bien. Hulbert aussi, je voulais voir beaucoup ce combat parce que d'une, c'est ma caté. Alors, tu vois, même, je sentais Prochaska gagner ce combat parce que je pense qu'il avait Hulbert, il n'avait pas l'habitude des 5 rounds. C'était tout était nouveau pour lui. Prochaska, non. Je sentais Prochaska beaucoup plus près, beaucoup plus serein. Et du coup, Prochaska, je n'ai pas compris. C'est incompréhensible.
Comme nous tous.
Tu as une chance pour le titre. Qu'est-ce que tu fais ? Le mec, il est blessé. Tu mets juste 2 high kicks, c'est fini. Donc, 2 low kicks, c'est fini. Après, voilà, il l'a payé. Hein.
Ouais, y a eu pas mal de... On a fait l'épisode lundi, mais j'ai vu pas mal de réactions aussi
après.
Il y a eu des Chael Sonnen qui ont beaucoup parlé. Il y a Dean Thomas aussi aux États-Unis qui a beaucoup parlé, qui finalement, c'est... Les gens sont très très peu indulgents avec le discours.
Ah, il y a Ray Longo aussi qui l'a lu.
Ah, il l'a lu, ah, ça. mais ouais. c'est vrai qu'ils sont très peu indulgents avec le discours qu'a tenu Prochaska après. En disant j'ai eu de la pitié, mais il dit mais si tu fais ce sport, quelle pitié tu vois. Et surtout, c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit putain, ils ont pas tort parce que les moments où Prochaska il y va comme un guerrier et qu'il a envie de découper la tête des mecs, il a pas de pitié pour eux à ce moment-là. Donc là, dire qu'il a eu de la pitié sur cette action-là, finalement, c'est un peu bizarre après.
Prochaska sur 32 victoires, c'est 30. Finition, non ?
Je crois qu'il y a 30 KO. Ouais.
30 finitions et 29 KO. Quelle pitié.
Ouais.
T'es le mec, je crois que c'est le gars qui a le plus de combats d'MMA dans la KT. Et c'est le gars qui a mis le plus de KO. Donc non, il a fait une erreur. Et en plus, Hulbert, il tape fort. Il l'a couché sur un crochet. En plus, il était en reculant. Ouais. Donc non, erreur et tu t'es fait avoir, c'est tout. C'est un sport où il ne faut pas être orgueilleux. Quand tu peux finir le combat, il faut finir. Il n'y a pas de ABCD, tu finis, c'est tout. On parle après.
Bon, on verra si en tout cas ça lui a apporté des leçons, parce que là, je pense que la leçon, en tout cas, le film du combat, il va se le refaire. Il doit être en train de se le refaire depuis 4 jours. Ça doit être assez terrible pour ce qui se passe dans la tête de Prochaska. Allez, on va aller sur le combat contre Pape, donc sur ton fight à Hexagone MMA 43. Déjà, j'ai entendu Jean Pourut une fois, le patron d'Hexagone MMA, dire qu'il t'avait. Il t'avait croisé sur des compétitions amateurs et t'avait dit le jour où tu veux passer en pro, tu me DM sur Insta
et
on verra ce qu'on peut faire. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait ?
Oui, c'est vraiment comme ça. Parce que dès que je suis devenu champion de France la première fois en juin 23, j'ai combattu sur la carte de Hexagone, AEF, bref, à Nantes, à la H Arena en septembre. Et c'était moi le premier de cette génération à avoir combattu pour Hexagone. Donc, quand j'avais vu un peu l'environnement professionnel, tout ça, une grande salle et tout, j'avais gagné mon combat là-bas. Et il m'avait dit tout de suite, dès que tu veux passer pro, le but, c'était que je passe pro en janvier 24 au Zénith.
Okay.
Mais je lui ai dit non, je suis pas prêt parce qu'ensuite je m'étais blessé au championnat du monde et ouais c'est passé comme ça. Et ensuite, dès que j'étais prêt, je lui ai envoyé un coup de fil, je lui ai dit c'est bon, c'est l'heure.
Ok, voilà, c'est beau, ça se fait par Instagram. Voilà, les matchmaking se font par Instagram, même à l'UFC, il doit y avoir des matchmaking qui se font de la sorte. Avant ce combat, tu étais à 3 victoires, 0 défaite, 3 victoires par KO dès la première reprise chez les professionnels. En fait, tu as été tellement impressionnant qu'il paraissait évident de proposer un title shot pour cette ceinture qui était vacante en ce moment chez Hexagone MMA, qui est désormais la tienne.
Oui.
Et c'est vrai que vu ce qu'il a fait dans ses premiers combats, c'était assez évident qu'il était chez Hexagone. C'était Bafodé qui devait combattre pour la ceinture des 93.
Oui, il n'y a pas à attendre. Quand un combattant comme ça fait ses preuves et que la ceinture est vacante, il faut profiter de l'opportunité. Surtout que Bafodé, maintenant, il a sa notoriété, il a ses suiveurs, donc tu sais que si tu fais le combat à Paris, on va pas se mentir, ça fait aussi bon business pour l'organisation. Et de mettre dans une carte comme ça un combat de Bafodé, c'était parfait. Ouais. Tout collait, tout le timing était bon en fait.
Ouais, tout à fait.
Face à toi, il y avait Lajos Pape, combattant slovaque, qui comptait 7 victoires et 2 défaites, et qui avait déjà pris une victoire dans l'Orga, c'était contre Amar Nessa en novembre dernier. Comment il s'est fait le match-up face à Pape?
Alors, on sait qu'en 93, c'est difficile de trouver des adversaires. On est la catégorie la moins fournie. Donc, du coup, je pense que pour la ceinture, Hexagone voulait vraiment un combat disputé. Donc, je pense une personne aussi qui va m'opposer de la résistance, comme j'ai eu 3 combats assez rapides. Et du coup, ils ont trouvé Lajos Pape, qui était aussi un choix logique, qui a déjà combattu dans l'Orga, qui a un bon record, qui a en plus de combats que moi. Donc du coup, le choix s'est fait assez rapidement. Et bon, je pense que quand on te propose la ceinture, t'as pas trop le droit de refuser.
Si non,
t'as pas de blessure.
Bien sûr, ni de ton côté, ni du sien.
C'est ça. C'est donc ça s'est fait assez rapidement.
Ouais, ça s'est fait rapidement. On l'avait vu, il était déterminé, il était assez confiant, y compris dans la conférence de presse qui avait eu lieu 2 jours avant. Toi, d'habitude, on connaît ton style, t'avances beaucoup sur tes adversaires. Au début du combat, quelle stratégie t'avais décidé d'adopter contre Lajos Pape?
Non, au début du combat, c'était de mettre du débit. Mais en fait, quand il était le jour de la veille et le jour où je l'ai vu dans la cage, il m'avait l'air beaucoup plus imposant dans la case. Donc j'ai mis un peu de débit, mais après quand il m'a saisi, j'ai senti une force de fou et ensuite je suis rentré dans mon instinct et j'ai combattu comme mon instinct me dictait de combattre, quoi.
Parce que forcément, pour un combattant comme Lajos Pape, qui en plus de ça un passif, parce qu'il a été 10 fois, je crois, champion de Slovaquie en lutte gréco-romaine.
Ouais, ouais.
Donc forcément, on savait que c'est là-dessus qu'il allait aller.
Ouais, c'est sûr.
Et donc, finalement, je crois, 1 minute 30, au début, il accepte un peu de striker, etc. Mais au bout d'1 minute 30, il va coller.
Ouais.
Et là, c'est un combat de lutte qui débute. Mmh. Et forcément, on s'attendait à voir ça de la part du Slovaque.
Ouais, moi, c'est ce que j'attendais. Maintenant, la question, c'était comment Bafodé allait réagir. On attendait tous voir comment ça allait faire, comment... On y est en fait. Tu vois, tu te dis, ok, voilà, on a un excellent prospect français qui va être testé aujourd'hui. Et même si on se parle, même si on le connaît, même si... Là, tu dis, ok, maintenant on va savoir. Maintenant on va savoir, ça va être quoi le niveau. Et on a tous vu la réponse. On a tous vu la réponse à plein de niveaux. Donc c'est quand même satisfaisant. Je ne sais pas pour toi ce que tu attendais de retirer de ce combat-là en dehors de la ceinture.
Non, franchement, beaucoup de positifs. J'ai fait, c'est la première fois que j'ai dépassé un round,
ouais.
Tu vois. Et en plus, la première fois, j'allais en 5 rounds. Donc maintenant, je sais de quoi je suis capable. Je savais que j'avais un bon cardio, mais on me disait souvent « pousse ton cardio ». Et là, vraiment, je l'ai poussé. Et en fait, dès qu'il devait m'attraper, je devais mettre crossface et sortir. Mais il avait trop de force. J'arrivais pas à glisser ma main pour mettre le crossface et sortir. Donc du coup, ça m'a un peu pris de la force. Et puis après, on est rentré dans un combat engagé. Il m'a amené au sol, je me relevais. Il y a eu beaucoup de phases de scramble et tout. Et c'est ça qui a fait que je pense que le combat a plu à beaucoup de monde.
Parce qu'il encaissait aussi, quand même.
Ah ouais, non, il avait un menton solide.
Ah ouais, ouais.
Il le touche bien, sur certains directs, le gros jab et tout, mais...
Il bougeait pas, mais je crois que c'est la lutte gréco-romaine. T'as des gros trapèzes, un coup balèze. Et il a pas bronché.
Quand tu sors du premier round, parce que c'est quelque chose, que c'est une distance que tu connais à peine, voilà, débuter le deuxième round, et en plus, avec un combat où il y a eu 4 minutes de lutte à peu près, dès la première reprise, comment tu ressors physiquement de ce combat et de ce premier round? Et est-ce que tu dis, si on va à 5 rounds comme ça, physiquement, ça peut être très dur?
Pas forcément très dur, parce qu'en fait, je connais mon cardio et ma capacité, donc je savais que moi, j'allais moins me fatiguer que lui, et lui, j'ai vite vu au premier round. parce qu'il le prend. Il m'a fait 3 amenés au sol, c'était très énergivore pour lui. Parce que moi, c'est dur de me garder au sol. Mais sinon, non, en termes de cardio, je savais que j'allais tenir quand même. J'étais vraiment prêt à faire 5 rounds.
Ouais, parce que tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission, tu disais, mais je ne savais pas pourquoi à l'entraînement, on me faisait faire des sparring 5 rounds, et tu dis, grâce à ça, j'ai compris.
Ah ouais, non, j'ai compris. Là, t'as bien compris. On doit pas, j'ai jamais négligé un adversaire, j'ai toujours fait des prépas qu'il fallait. Et là, c'était ma première prépa en 5 rounds, c'est long. Avec Franck, mon coach, on a bien bossé, on faisait des rounds de 6 minutes. Donc, on faisait 5 fois 6 minutes avec 2 adversaires qui changeaient toutes les 3 minutes. C'est-à-dire, j'étais vraiment prêt. Et non, c'est... Il faut vraiment se préparer. Et le gars, on le savait qu'il n'allait pas tomber au premier.
Ouais.
Je ne pensais pas qu'il allait tomber au premier. J'aurais peut-être pu le soumettre, mais il n'allait pas tomber KO au premier. Ouais. Et le gars aussi, hein, il vient chercher un titre. Il vient chercher un titre mondial. Il y avait beaucoup de supporters de son pays. Il est venu confiant. Et je pense, sur tous ses combats, c'est le meilleur combat de sa carrière.
Ouais, je pense. Enfin, j'ai pas vu tous ces combats, bien sûr, mais vu le combat qu'il a livré face à un gars qui monte comme toi et qui a un niveau déjà mondial, je pense qu'il a fait un très gros combat rapport à ce qu'il avait fait auparavant. Et là où ce que j'ai bien aimé aussi, Baba, je sais pas si t'as trouvé ça, mais en fait, c'est que finalement, pour un striker comme Bafodé, il a accepté d'aller lutter lui-même derrière, et c'est lui qui prenait l'initiative parfois en lutte aussi derrière.
Quand je te dis qu'on a appris des choses intéressantes et qui sont très positives pour la suite, c'est un peu tout ça, parce que tu peux te dire, ok, le striker, il a fini par défendre toutes les amenées au sol, et il a fini par le toucher. En général, c'est plus ce scénario-là qui se passe, tu vois. Mm-hmm. Et c'est plus à ça que je m'attendais, en fin de compte. Et en fait, tu vois tout le travail. Tu vois tout le travail qui paye, tu vois des initiatives en lutte, tu vois... En tout cas, de notre interprétation, mm-hmm. t'acceptes un peu plus. Tu dis, ok, d'accord, tu m'as amené au sol, mais ça ne va pas être si simple. Donc, on va avoir des positions dominantes. On va te renverser, on va se relever. On va travailler dans le clinch. Il y a ce fameux coup de genou.
Ouais, le coup de genou.
Ah ouais, on va y revenir. Ouais, on va y revenir.
Après, si je peux revenir sur ce que vous dites.
Ouais.
Ça, c'est dû à mon expérience de ma finale des championnats du monde en Ouzbékistan.
Mm.
J'ai appris un truc, c'est que quand tu tombes sur un lutteur, il ne faut pas forcément fuir. En fait, rentre-lui dedans, lutte avec lui. Comme ça, il ne va pas s'attendre à ça et ça peut le fatiguer ou l'amener dans des trucs où il n'y pensait pas. Parce que lui, il sait qu'il est plus fort que toi en lutte. Mais si tu commences à le fatiguer sur ça aussi, il n'aurait jamais imaginé ça. Parce que lui, il va se dire tout de suite, tu vas défendre la lutte. Et moi, au championnat du monde, ma finale contre un Ouzbék, j'ai fui la lutte. Or que je ne suis pas forcément un mauvais lutteur et ça m'a porté préjudice, j'ai perdu.
Expérience encore une fois de tout ce qui se passe en amateur avant qui apporte beaucoup derrière aussi chez les professionnels, c'en est encore une fois la preuve. Au deuxième round, il y a un moment où je trouve qu'il commence le round assez fatigué et tu te dis bon, il est déjà un petit peu atteint par la première reprise. Et à un moment, finalement, il réussit à t'amener au sol. Mm-hmm. Il arrive à prendre ton dos à un moment, mais tu vois, autant dans l'action, donc comme je disais, c'est toi qui entamais parfois des phases de lutte, mais dans la réaction, t'étais très bon aussi parce qu'il y a un moment où il arrive à te prendre le dos où on se dit il peut faire quelque chose, mais dans la réaction, t'es très bon et c'est toi qui ressors d'une position désavantageuse, tu te retrouves dans une position avantageuse.
Mm-hmm. Ouais, non, c'est un combat disputé, on se laissait rien et à un moment, il prend mon dos, il veut m'étrangler, mais j'arrive à relever le coude. Il n'a pas bien forcément les crochets. Et en fait, on glissait vite. Nos corps glissaient vite parce que même moi, j'ai tenté énormément de soumissions, mais je n'arrivais pas à les concrétiser parce qu'avec la sueur, on glissait vite. Et sur ce combat-là, bon, on a fait 25 minutes, mais maintenant, les gens, ils ont vu ma mobilité au sol. Donc, je ne suis pas content, tu vois, sur ça.
Ouais.
Sinon, c'est comme ça, tu vois.
Ah, tu veux dire que ça y est, tu veux dire que les prochains adversaires
y a plus l'effet
seront préparés fait que tu puisses te défendre au sol.
Qu'au sol, je connais, tu vois.
Ok.
Tu vois.
T'as livré quelques cartes de ton jeu, mais...
C'est ça qui est dommage, mais c'est le monde du combat.
Ouais.
Du combat, on voit ce que tu proposes. Donc là, maintenant, ils ont vu les gens. Ah, il a un sol quand même, il connaît.
Ouais.
Et je voulais le montrer en pratique parce que je voulais le soumettre, le gars. Mais tranquille.
Troisième reprise, ça part. Il y a un petit peu plus d'anglaise dans la troisième reprise. Je crois que tu arrives un peu plus à installer l'anglaise. Il y a un jab à un moment qu'on voit bien au ralenti. Je sais pas si t'as vu le combat.
Ah non, le jab je lui mets dès le début du troisième, ça le sonne un peu.
Celui-là, il est dur. Ouais.
Il est vraiment dur parce qu'il se le prend plein nez. Mm. Et mon coach, il me le disait, fais box, jab, travaille avec ton jab. Et j'ai voulu, je crois qu'il m'a réattrapé ensuite. Et le troisième round, je pense que je lui mets un 18 parce que je lui mets énormément de dégâts. Ouais. Je le tape beaucoup. Et à la fin du troisième, il n'en peut plus. Il va dans son round à 4 pattes, je crois.
Toi,
t'es comment de dire, je lui mets tout ça dans la tête, mais il veut pas abandonner, quoi.
En ce moment-là, j'étais un peu en mode robot. Hein. J'essayais de taper seulement, taper. Je ne pensais même pas à mon cardio. Je pensais vraiment à le finir.
Ouais.
Et même à la fin du round, moi je suis là, j'ai un peu de mal à retourner à mon camp, mais je sais que lui il en peut plus, quoi, tu vois. Et ouais, le troisième round, je crois qu'il y a 18.
Et en plus, à un moment, Antoine, au commentaire, il parle de la spéciale bafaudée, mm-hmm. parce que quand même, à la fin de la troisième reprise, t'arrives à enchaîner en anglaise,
ouais.
t'arrives à bien taper, etc. Tu touches, et là, on se dit peut-être que là, il va pouvoir trouver un finish. Tu t'es dit à ce moment-là que tu pouvais trouver le finish aussi.
Bah, moi, à ce moment-là, je pensais que j'allais le finir, mais le gars, il prenait des coups, mais il bougeait pas. Ouais. Il prenait des coups, il encaissait, mais il attendait. Je sais pas comment il faisait.
Mais même ça, en expérience, c'est bien pour toi. Parce que toi qui as une grosse force, qui a l'habitude de mettre les mecs KO,
ouais, ouais.
et que ça tombe et que le combat soit terminé, au moins, même ça, ça t'a poussé dans ton cardio et dans ton mental bien à sûr. Encore aller chercher autre chose.
Ouais, non, c'est franchement, c'est une expérience de fou. Cinq rounds, au bout d'un quatrième combat d'MMA en pro, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait. Donc, je suis très content. Moi, je savais que j'avais un cardio, mais là, j'en ai la preuve. Donc, non, c'est très bien.
Quatrième reprise maintenant, et c'est là qu'il y a le coup de genou
voilà, hein,
dont on a parlé.
Le coup de genou gate.
Il y a Hugo Pérez, notre reporter et CM RMC Sport, qui était sur place, qui a recueilli tes premières impressions et qui l'a publié sur les réseaux RMC Sport Combat derrière, où justement tu réanalyses cette phase-là. Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu, parce que donc, c'est une séquence, tu mets un coup de genou, Pap est au sol, mais en fait, dans les règles, tu avais le droit de mettre ce coup de genou.
C'est ça.
Finalement, l'arbitre arrête le combat, analyse la situation et le combat repart. Donc tu perds cette position que tu avais et tu perds le bénéfice du fait qu'il ait été sonné après ce coup de genou.
Bien sûr.
Mais mentalement, ça ne semble pas te sortir de ton combat. Réexplique-nous un petit peu la manière dont tu vis cette séquence.
Alors franchement, je vis cette séquence d'une manière très injuste, parce que même là, quand j'ai re-regardé, l'arbitre était vraiment pas loin. Et moi, je le vois qu'il n'a pas de partie, il n'a pas ses hanches, ni ses genoux, ni ses coudes au sol. Je le vois, moi. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose, je ne fais pas cette erreur-là. Parce que j'ai combattu en amateur. En amateur, on n'a pas droit aux genoux, on n'a pas droit aux genoux à la tête.
Donc, tu as toujours l'œil, t'as le cerveau qui est très vif là-dessus.
Voilà, on le fait très attention. Quand tu as fait beaucoup de combats amateurs, vu que tu n'as pas droit aux genoux à la tête, debout ou au sol, tu fais attention. Donc là, je voyais, moi, il avait ses deux pieds. Il avait juste sa main comme ça. Mais ses fesses, ils étaient contre la cage. Donc, je lui mets un genou dans la tête, normal. Le mec, déjà, à la fin du troisième, même début quatrième, il n'en pouvait vraiment plus.
Ouais.
Donc, je le rentre tout de suite dedans. Et à mon avis, 15 secondes, c'était terminé. Je n'ai pas compris comment il arrête. Temps mort, bon, ok, tu mets le mec en sécurité. Mais après, pourquoi ils nous font reprendre debout?
Ouais, c'est ça le problème.
C'est pas bon.
C'est ça. Tu perds tous les bénéfices.
Tu perds tous les bénéfices. En plus, le gars, il était groggy. On se prend quoi? 1 minute 30, il se repose bien, il reprend debout. Ça veut dire j'ai tout perdu.
Ouais,
et en plus, je perds un finish aussi.
Bah ouais.
Normalement, là, j'étais à 4-0, 4 finish. Tu vois? Ouais. Mais bon. J'ai gagné quand même le combat, mais normalement ça c'est un TKO.
Ah, c'est vrai que c'est une erreur qui peut causer des préjudices, parce que si à la fin il y a une décision qui est en défaveur de Bafaudé par exemple,
ou je me prends une soumission,
ou je me fais soumission, ou il y a quelque chose comme ça,
tu vois.
Et voilà, pour tes stats, c'est vrai que ça vient jouer un peu sur tes stats. En plus, mine de rien, ça aurait été bien aussi dans les stats de voir quatrième round finish. Ça prouve que tu peux arriver jusque là et quand même être bon et être méchant. Mais bon, je pense qu'après les promoteurs qui tourneront autour de toi sauront que ces phases-là, ils regardent tes combats.
Mais
c'est vrai que Baba, c'est des petites erreurs d'arbitrage qui peuvent avoir des grosses conséquences.
Ouais, non, mais là, quand j'y pense, ouais, c'est un peu dommage. Je veux pas jeter la pierre.
Non, ça arrive, bien sûr. Mais
c'est difficile, il faut juger dans le feu de l'action.
Mais être humain, bien sûr.
Mais c'est vrai que les conséquences, ça peuvent être
dramatiques.
Relou, pour pas dire autre chose. Ouais.
Ouais,
tu vois, donc, ouais.
Bon, en tout cas, t'auras quand même mis ce coup de genou. Il l'aura pris, quoi qu'il arrive.
Ouais, non, bien sûr.
Il y aura eu ce bénéfice du coup de genou. Il y a ce R4 qui se termine. Inter-round, il y a de la sérénité dans ton coin. Il y en a beaucoup moins du côté de Pape. Il y a les caméras MC Sport qui vont aussi dans le coin de Pape. Et il y a moins de sérénité.
Mm-hmm.
Et au R5, dernier round, pour la première fois, pendant la première minute, il accepte
d'échanger
au striking.
Mm-hmm.
C'est peut-être la seule fois où il se dit, tiens, on peut. Il y a des moments où toi, tu avais réussi à développer son striking sans qu'il arrive à défendre.
Oui.
Là, il se dit, ok, j'accepte d'échanger en striking aussi.
Oui, non, j'ai vu ça. Donc, je crois, à un moment, il essaie de m'envoyer un high kick. Moi, je lui avais mis des jabs au corps. Ça le faisait un peu mal au corps. Je l'ai beaucoup travaillé au corps. Et après, bon, je pense qu'il n'a pas voulu durer là-dessus. Je pense que c'était dû. Parce qu'à la fin du quatrième, on voit son camp qui lui met des claques dans la tête.
Ouais.
Réveille-toi.
Ouais,
genre, c'est le dernier round, donne tout. Donc, je pense qu'il a essayé, mais après, il s'est vite rendu compte que ça n'allait pas le faire. Quoi.
Ouais, le round se prolonge et à 1 minute 30 de la fin à peu près, tu réussis une rupture de contact.
Ouais.
Là, tu réessayes d'instaurer une grosse... Et encore une fois, hein, bravo, parce que là, tu étais à 23 minutes 30 de combat.
Mm-hmm.
Et là, tu remets un coup de cardio et un coup d'énergie pour essayer de refaire mal en striking.
C'est ça.
Finalement, il revient coller, le combat se termine un peu comme ça.
Je le retape, crochet, uppercut. Ensuite, je le mets en clean, je lui mets un genou dans la tête, il met un genou au sol. Mais il était solide. Et franchement, c'est je pense que c'est mon meilleur combat de ma carrière.
Ouais.
L'enjeu, la durée, la durabilité de l'adversaire, les phases où il domine, moi je domine, c'était un combat très engagé. Et tu vois, moi à la fin de mon combat, j'étais un peu déçu parce que je ne l'ai pas fini. Mais après tous les ressentis que j'ai eus, les gens ils m'ont dit c'était un bon combat. Et même moi, quand j'ai revisionné le combat, bah, franchement, c'était plaisant à voir. Quoi.
Ouais, bah, t'as passé plus de temps dans la cage sur ce combat que sur tes trois premiers combats pro, hein, très largement, parce que c'était que des premiers rounds à la fin. Après, forcément, sur le ressenti, bah, t'as juste connu une autre distance et t'as une nouvelle expérience grâce à ce combat. Parce que quand on voit les crochets plein menton que tu mets avant avec beaucoup de précision aussi, on peut dire que c'est des gros combats. En plus, il y a des combats où t'avais été aussi un petit peu dérangé par certains adversaires, mais tu t'en es sorti et tu les as mis KO. Donc c'est bien, ça vient compléter ton expérience. Antoine Etelor, Baba, je sais pas si t'es d'accord aussi avec ça, ils disent qu'ils ont vu à l'UFC par exemple des combats en moins de 93 kilos qui étaient moins intéressants que celui-ci.
Bien sûr, alors là je suis prêt à débattre n'importe qui quand ils veulent. Mais, et beaucoup, pas un peu, beaucoup, il y a beaucoup de combats,
même le combat ce week-end, Walker contre Reyes.
Ah oui, j'ai oublié ça.
Tout le monde pensait qu'il allait avoir un KO. Je ne l'ai pas vu. Hein.
Ils ont tourné.
Il faut que je le re-regarde. Parce que bon, les deux, ils ont le menton fragile. Je vais le re-regarder, ce combat. Mais bon, moi, je ne me comparerai pas à l'UFC dans tous les cas. Mais c'était un combat âpre.
Tu te compares pas à l'UFC, mais tu es au Factory depuis 2023.
C'est ça.
C'est ça. Ça fait 3 ans maintenant. Tu en as vu passer des gabarits importants.
Oui.
Des mecs balèzes. Cyril est à Paris en ce moment en plus. Oui. Donc j'imagine que tout le monde en profite. Est-ce que ça te donne une idée de ton niveau par rapport à ce qu'on appelle le niveau élite? Parce qu'il y a des gars élites qui sont passés quand même.
Bien sûr. Alors, je pense que je commence à m'en rapprocher doucement, doucement. J'étais parti avec Cyril à Abu Dhabi pour voir, ressentir c'est quoi l'UFC. Ben, on s'était vu là-bas. Donc, du coup, non, l'UFC, franchement, c'est quelque chose qui donne envie, surtout dans la catégorie 93. C'est une catégorie qui est demandeuse à l'UFC. Donc, je pense que c'est un rêve pour chaque combattant qui combat en light heavyweight. Et du coup, je pense que je commence à m'y rapprocher petit à petit. Aujourd'hui, je suis 189e mondial sur Fight Matrix. Donc, je suis dans le top 200. Et dans le top 200, il y a des gars de l'UFC, tu vois.
Ouais, c'est clair. J'ai regardé d'ailleurs sur Fight Matrix par rapport à l'âge aussi. Donc, tu as 32 ans aujourd'hui. Encore un sujet évoqué avec Boris Atangana aussi, parce que forcément, lui, sait qu'il, même si il a pris moins de coups aussi dans sa carrière, donc il va pouvoir avoir une maturité un peu plus tardive, etc. Mais par rapport à l'âge, j'ai moins de 93 kilos sur Fight Matrix. Le seul mec plus jeune que toi qui arrive le premier dans le classement Fight Matrix, il est 19e. Tu vois, c'est un mec du PFL, c'est Sullivan Colley qui est combattant PFL. Il a 29 ans, il est 19e de ce classement. Tous les mecs qui sont entre la première place et la 18e place du classement Fight Matrix chez moins de 93, ils ont plus de 32 ans. Tu vois, donc c'est comment t'analyses aussi ça par rapport à ton âge et à quel moment tu te dis que ça pourrait être le max de ta carrière, tu vois, le prime de ta carrière, tu pourrais l'atteindre à quel âge d'après toi?
En fait, je pense, moi, tout dépend du fait dans quel âge. Ça dépend du nombre de coups que tu prends. Ouais. Mais moi, je pense que je commence déjà à être dans mon prime. Mais on sait qu'en light heavyweight, on peut durer. Et si jamais ça commence à être compliqué, tu peux monter en heavyweight. Ouais. Tu vois? Mais sinon, non, je pense que. Il suffit de bien s'entraîner. Moi, j'ai commencé les MMA tard. Je n'ai pas pris de coups aussi. Donc, en vrai, j'ai juste pris beaucoup d'expérience. Donc, je suis peut-être déjà dans mon prime ou peut-être il va arriver. Mais ce n'est pas une question que je me pose, ça.
Ouais, c'est vrai, Baba, c'est des catégories où tu peux briller de manière assez tardive. Les catégories plus légères, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir 40 ans et de combattre. Oui. Mais là, quand on voit, tu vois, quand on voit la carte de ce week-end, t'as parlé de Reyes, t'as parlé de Walker, et puis il y a eu d'autres gars qui sont beaucoup plus âgés. Même
Hulberg, il a 36.
Même, voilà, c'est ça, on était étonnés en faisant l'émission. Là, on s'était dit, ah, mais Hulberg, il est plus âgé que Prochaska.
Ouais, bien sûr.
On disait, mais c'est fou, il a 36 ans, il paraît tout neuf.
Et Pereira, il a combien? 38, 39.
Je crois qu'il a 38, ouais.
Glover Teixeira, champion à 42. Ans.
42,
ça veut dire qu'on est dans deux on est dans une caté qui est peu fournie. Ça veut dire qu'en vrai, toutes les organisations savent qu'un 93, c'est dur à trouver. Ça veut dire, même je pense, hein, tu as 35 ans et tu as un bon record, à mon avis, si tu mets des KO et tu es vendeur, pour moi, tu es signable partout.
Ouais,
donc,
c'est vrai.
Faut juste se concentrer sur la performance, quoi.
Ouais, même dans cette caté, au final, Paolo Costa, Morzakhanov, les mecs, ils ont 35, 36, 37 peut-être.
Ils ont du kilométrage. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est des gars qui ont du kilométrage, c'est des gars qui ont pris des coups, c'est des gars qui ont pris des KO. Ils en ont infligé, ils en ont pris. Quand tu regardes Reyes contre
Walker.
Walker, C'est ce que je te disais quand on a fait le débrief. Tout le monde s'attendait à un accident de voiture, le combat. Mm-hmm. Mais quand tu analyses avec plus de finesse, tu te dis, nous, on aurait dû savoir que ces mecs-là, ils en ont marre de bien se faire éteindre la lumière. Et à un moment, il faut changer quelque chose.
Tout à fait.
Donc à un moment, il faut combattre de manière plus prudente. Parce que ça y est, ils sont fatigués. Le mec, ouais, tu prends 4, 5 KO. Enfin, il faut voir les KO qu'ils ont pris. Le KO qu'il a pris contre Hubert Grièce, il est dur. C'est un combat où moi, je suis dans son coin, je me dis... Faut qu'on ait la discussion qui va être chiante, mais faut qu'on ait cette discussion-là. Là, j'ai vu tes neurones sortir de la cage. Et Walker, je t'en parle même pas. Il y a un highlight de lui qui, avec sa tête qui rebondit.
Ouais. Même contre Ozdemir, le KO qu'il prend.
Ouais, mais il y a un truc intéressant par rapport à ça, parce que Reyes, dans les avant-combats, il disait aussi le fait d'être papa, ça a changé pas mal de trucs en lui, etc. Toi, t'es déjà père de deux enfants.
C'est ça.
Est-ce que, et t'as dit d'ailleurs que si t'es arrivé plus tard, c'est aussi que c'était pour t'occuper parce qu'ils ont qu'un an de différence, je crois, tes deux enfants.
Oui.
Donc ça a été très intense pendant, je pense, les deux.
Non, je pouvais pas. Bah...
Tu pouvais pas, donc ça.
J'ai eu ma première fille juin 23 au championnat de France, mes premiers championnats de France. Elle sort la veille des championnats de France. Donc déjà, je suis à 18 de tension parce que j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais. Et ensuite, la deuxième, un an après, elle vient. Et comme j'avais un studio, je pouvais pas dormir la nuit. Donc, tout la première partie, le premier semestre 2024, je suis mort parce que je suis dans le studio, j'ai un nourrisson. Donc, même à ce moment-là, je me dis, c'est pas le moment de passer pro parce que tu peux pas faire d'erreurs. Toutes les erreurs que je pouvais faire en amateur, je les ai fait et j'avais le droit de les faire à ce moment-là. En pro, faut pas faire d'erreurs. Donc, j'ai retardé tout ça.
Mais donc, ça, donc finalement, c'est quelque chose que tu as en tête et qui t'aide aujourd'hui aussi à être plus calculateur, plus, tu vois, avec une tactique qui est un petit peu différente aussi dans tes combats que si tu n'avais pas d'enfant, tu crois ?
Bah, bien sûr, quand tu as des enfants, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu rentres dans la vie, dans la vraie vie, tu vois. Donc non, il faut faire attention. Surtout que nous, on fait un sport et on monte une carrière. Tu vois, il faut bien que les gens comprennent qu'on est en train de monter une carrière. Une carrière, ça se monte, ça se construit, peu importe où tu es. Tu vois, moi, je suis à la mairie, j'ai monté ma carrière, j'ai passé des concours, tout ça. Donc, du coup, non, il faut faire les choses intelligemment et il faut performer dans la cage.
Un petit mot sur, on parlait du MMA Factory, sur Franck Firoul, qui est ton coach, qui te suit depuis un moment, qui est aussi le head coach du striking au MMA Factory. Comment est-ce qu'il t'a aidé justement toi à te développer ? Est-ce que ce striking très puissant, tu le dois aussi à lui aujourd'hui ? Comment lui, alors qu'il est coach en striking, il t'aide aussi sur d'autres domaines ? Tu vois, comment ça se passe, votre collaboration ?
Notre collaboration, elle est née lors de la F4, lors de mon premier combat. Donc depuis ce jour-là, on a commencé à travailler ensemble et en fait on a beaucoup. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans qu'on est ensemble. Il y a eu beaucoup de bons résultats positifs et beaucoup de changements aussi. Avant, je savais pas striker comme ça, tu vois. Il m'a beaucoup développé dans les enchaînements, dans la façon de me placer, parce que je faisais pas de sport de combat. Et du coup, Franck, il m'a beaucoup aidé. Et merci encore à lui. Et j'espère que notre collaboration durera encore longtemps, tu vois. Moi, j'aime bien monter avec les gens. J'aime bien qu'on ait une équipe et on monte. On a commencé en bas et on monte ensemble, quoi.
J'ai vu une vidéo de lui sur un de tes KO. Mm-hmm. Et dans le coin, c'était pareil, c'était mis sur les réseaux RMC Sport Combat. Mm-hmm. Il a beaucoup de sérénité, il est très posé, non, il est très calme parce qu'il y a tout le coin qui se lève, qui commence à monter dans la cage. Et lui, il dit à tout le monde, calme, posez-vous. Alors que, parce que je pense que ton adversaire, il devait être au sol.
Ouais, il était KO.
Il
avait
un peu de mal à se relever, etc. Donc il y a aussi une sorte de calme, il tempère aussi un petit peu peut-être certains excès que parfois tu pourras avoir.
Ouais, après, moi, ça va, je suis quelqu'un d'assez calme. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'entre toi et ton entraîneur, vous devez avoir une bonne alchimie. Le combat dont tu parles, c'était le combat à Toulouse lors de mon 3e combat pro. Il me dit de mettre des coudes et tout de suite, je les mets. Il y a vraiment une bonne alchimie entre nous deux. Et c'est très important entre un athlète et son entraîneur d'avoir une bonne alchimie. Et après, il connaît ma force. Il connaît, vu que quand on fait mes sparring, il voit aussi mon cœur, il voit comment je suis. Donc du coup, lui... Souvent, il sait, il connaît le résultat. Il sait que s'il prend celle-là, ça va être compliqué pour l'adversaire, quoi.
Et puis, le MMA Factory, c'est vrai que, on faisait référence tout à l'heure, mais c'est une écurie où déjà, tu as pas mal de mecs qui sont assez lourds.
Oui, bien sûr.
Donc, ça te fait une bonne capacité d'avoir des sparring qui sont à ton niveau et à ton poids. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça t'a appris de tourner avec un Cyril Gane, par exemple ?
Ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut... déjà, moi, Cyril, je trouve que c'est vraiment un striking d'élite. C'est un combattant complet, mais vraiment un gros striking. Et quand je tourne avec lui, je trouve que c'est dur de le toucher et que ce que tu vois, il le voit déjà, tu vois. Tu sens le haut niveau et tu sens aussi que le gars, il est allé dans des rounds difficiles, contre des gens difficiles. Et tu vois, quand par exemple on était à Abu Dhabi, sur le combat contre Aspinall, on sentait que Aspinall n'avait pas connu ça et que lui, il l'avait déjà connu. Et pour moi, je pense qu'il aurait gagné ce combat. Mais quand on tourne avec Cyril, moi, c'est le ressenti que j'ai, quoi.
Quelle influence a aussi Fernand Lopez sur des combattants comme toi, dont il n'est pas dans ton coin, mais c'est le patron du MMA Factory. Quel rôle il a aussi auprès de ta carrière ?
Bah, écoute, moi, dès que je suis arrivé au Factory avec Fernand, ça s'est bien passé. Il m'a toujours guidé sur des points fondamentaux et sur lesquels je devais vraiment travailler. C'est-à-dire, moi, Fernand, il m'a toujours dit, Bafo, la vitesse. En fait, Fernand, il va te dire ce que tu dois développer pour performer au haut niveau. D'accord ? Donc, et déjà, même une anecdote, quand on avait fait le combat contre Nantois, j'étais mal rentré dans le combat. Et Fernand, il m'avait dit, après ce combat, Bafo, comment t'es rentré contre Nantois ? Tu ne dois pas faire ça en pro. Donc, on a décidé d'aller aux IMAF 2024. Et c'est par rapport à ça que je suis allé aux IMAF, j'ai performé. Mais il m'avait dit que tu dois mieux rentrer que ça. Il m'a toujours bien indiqué. Et dès que j'ai besoin de lui, moi, on parle et tout, quoi.
D'ailleurs, on en profite, Baba, hein, pour parler de Fernand Lopez. Parce que l'autre jour, il y a eu un tournage avec Fernand Lopez ici d'un Baba versus.
Exact.
Ah,
donc,
il
va sortir. Donc,
t'as reçu Fernand.
Ouais, ouais. On a parlé.
Il y a un bel entretien.
Presque deux heures. Donc, il y aura à boire et à manger.
Presque deux heures. Donc, il y a un Baba versus. On est mi-avril actuellement. Donc, c'est quoi pour fin avril, début mai
ça il devrait pas tarder. C'est ça. Dans les deux prochaines semaines.
Avec un bon Fernand Lopez.
Ah, il était Fernand Lopez. Voilà ce que je peux dire. Très propre, très classe, très bien habillé.
Toujours.
J'ai regretté de ne pas avoir mis mon costard d'ailleurs, mais c'est une très bonne discussion, donc j'espère qu'elle va plaire à tout le monde.
Voilà, Baba versus disponible fin avril, début mai sur RMC Sport, évidemment sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat aussi. Pour terminer, sur ta fréquence de combat, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Quels sont tes objectifs à court terme ? Est-ce que tu as envie de combattre, si tu ressors bien de tes combats comme tu l'as actuellement, est-ce que tu as envie de combattre quoi, 3, 4 fois par an ? Est-ce que tu préfères rester à 2 combats par an maintenant que tu as une ceinture ? Est-ce que tu comptes défendre cette ceinture hexagone plusieurs fois ? Comment tu vois le futur à moyen, à court terme ?
Bah, écoute, moi, la première année, j'ai fait 3. Cette année aussi, j'aimerais faire 3. Mais bon, après, comme c'était un combat pour la ceinture, tu peux avoir un petit temps d'attente avant d'avoir... Là, aujourd'hui, je suis champion. Mais bon, après, moi aussi, j'ai 32 ans. Le but, non, c'est de combattre le plus rapidement possible aujourd'hui. Après, est-ce que je vais aller au Contender Series ou est-ce qu'il y aura des opportunités pour moi ? Je ne sais pas. S'il n'y a pas, bah, je défends la ceinture et on continue, quoi.
Bon, en tout cas, c'est plus à toi de call out les gens, hein, parce que maintenant t'es champion.
Oui.
Parce qu'il y a un combat où t'avais call out Greg MMA, par exemple.
Ah oui, ce combat-là, tu vois, aujourd'hui on est sur RMC. Non, moi j'ai les call out pour deux raisons. Il y avait la ceinture est vacante en 93. On est les deux mecs qui ont le plus de combats dans la KT et il était devant moi sur Fight Matrix. Aujourd'hui, il l'est toujours, mais il a pris sa retraite. C'est simplement pour ces raisons-là. Et je sais que moi, contre lui, ça remplit tous les zéniths. Mais sinon, j'ai rien contre lui. Et puis là, je pense qu'il avait raison de ne pas prendre ce combat. Moi, j'ai tout mon avantage à prendre ce combat et lui, non. Mais c'est tout. Je respecte le gars, il n'y a pas de problème, moi.
Ouais. De toute façon, on a croisé Greg il n'y a pas très longtemps, Baba. Je ne pense pas qu'on le revoie... Rapidement.
Il n'a pas l'air de vouloir reprendre.
Non, mais je crois qu'il a pris sa retraite, non ? Parce que j'ai regardé l'épisode avec toi.
Alors, il le dit, il le laisse clairement entendre, mais c'est toujours pareil avec vous.
Et je dis avec vous, des combattants. Dirais,
avec moi, entre autres. Tu dis, tu formules, je suis à la retraite pour un combattant. Écoute, ça fait 3 ans que je fais des versus, j'en ai fait, je crois, 21 ou 22. La plupart des combattants retraités, 90% des mecs que j'ai reçus me l'ont dit, je n'ai jamais formulé ma prise de retraite. J'ai jamais dit, je suis à la retraite.
Moi, je pense hein, que quand je dirais « je suis en retraite, moi ».
Mais c'est bien, t'as dit « je pense » devant.
Ouais,
déjà, tu mets de l'incertitude.
Et ça, c'est bien, parce que il y en a eu trop des retraites. On parlait l'autre jour de Conor McGregor.
C'est la vie de combattant, parce que la vie de combattant, ça se vit. Une vie de combattant, c'est un vrai mode de vie. Et je pense que quand tu vis cette vie-là pour de vrai, et ben, en fin de compte, t'as un mindset, c'est pas quand je dis ego, faut pas le prendre de façon négative.
Bien sûr.
Simplement que t'as besoin d'ego pour être un combattant. Mm-hmm. Ton ego va toujours te dire, tu peux en faire un dernier. Bien sûr. Vas être devant ta télé, tu vas regarder les mecs de combat, tu vas dire, moi je pense que lui,
bien sûr,
je peux faire quelque
c'est
chose.
Sûr,
mais
c'est sûr.
Et c'est comme ça, tu vois.
On le voit parce que, et en plus, c'est un mec très réfléchi, Mickaël Lebout, avec qui on bosse souvent, etc. Mm-hmm. Il a pris sa retraite, mais quand on est à des soirées ici,
on
voit des gars françaises, en plus, il regarde, il fait, là, j'aimerais bien le taper, lui,
Le connaissant, le peu que je le connais, c'est sûr, il est comme ça, lui.
Ah ouais, Mickaël,
il doit regarder, il doit péter sa tête.
De pas trop le titiller parce que j'essaie de respecter le fait qu'il a la retraite. Il a fait une très très belle carrière. Mais tu le vois bien que oui,
c'est normal. L'âme du combattant, elle reste.
Non, mais c'est surtout, en plus, eux, ils ont commencé les MMA où c'était interdit en France. Aujourd'hui, comment ça se développe, franchement, ça donne envie, quoi.
Bien sûr.
Donc, moi, ce sentiment, je le comprends. nous, on a commencé à l'âge d'or. En plus, j'avais, moi, une bonne génération. Donc, nous, ce ne sera peut-être pas la même chose que eux. Mais je le comprends, moi. Aujourd'hui, en plus, comment tu vois, ça se développe, des orgas françaises, des zéniths. Tu te dis, mais vas-y, je peux le faire, quoi. Mmh. Tu vois, en plus, je combats chez moi, je peux ramener ma femme, mes enfants, ils ont grandi. Allez, donc, c'est tout à fait normal.
Ouais. Clairement. Bon, vous l'avez compris, Bafodé Gassama est très, très loin d'être à la retraite. 4 combats professionnels, 4 victoires. Mmh. La dernière pour cette ceinture qui est à côté de toi, que tu nous as fait le plaisir de ramener ici au MC Fighter Club. Champion chez moins de 93 kilos. Chez Hexagon MMA, et donc ta première défense, elle sera aussi sur MC Sport, et on espère aussi pouvoir en reparler ensemble. Merci Bafodé d'être passé par le studio
Merci
MC
à
Sport
vous, les gars.
Et de nous avoir donné
beaucoup.
Cette
merci
primeur de ce grand débrief et de ta vision pour le futur. Baba, merci comme d'habitude.
Merci à vous, merci Charles, merci Bafodé, merci toi, on kiffe la vie, c'est trop bien. Nos mercredis sont trop bien.
Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Franchement, on se fait vraiment beaucoup de kiff de recevoir des passionnés, des combattants comme toi, donc merci encore
beaucoup,
à
les gars.
Toi et force pour la suite. Quel... Merci à toutes et à tous comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-vous des rappels quand les épisodes sortent, suivez à la fois les plateformes de podcast et à la fois YouTube, parce qu'on les publie pas toujours sur YouTube, mais abonnez-vous là où vous le pouvez, ça donne toujours de la force au RMC Fighter Club, et on essaye de vous proposer toujours plus de contenu et d'invités. Merci à Daniel Torres et Flavien Ziolkowski qui étaient aujourd'hui en régie, et à très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao.
RMC Fighters Club.